Voilà, bonjour chers frères et sœurs. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le prophète Malachie au chapitre 4 et au verset 2. Amen. J'aimerais parler ce matin sur la guérison divine. Et dans Malachie chapitre 4 verset 2, nous lisons « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. » La guérison sera sous ses ailes. J'aimerais donc introduire une série de messages sur la guérison divine par une première peut-être introduction. Notre premier message qui sera une forme d'introduction, la guérison divine. Nous croyons que c'est l'action de Dieu que l'on retrouve dans toute la parole de Dieu, que Dieu agit de manière surnaturelle pour guérir, pour sauver, pour délivrer. Mais avant de parler à proprement de la guérison, quelques mots sur la maladie. Tout d'abord, la maladie n'a pas toujours existé. Nous savons que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, ils ont été créés parfaits et qu'ils ne connaissaient pas la maladie. Par contre, dès que le péché est arrivé, la maladie est venue avec le péché. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin d'Éden et il leur a dit « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais pas celui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais il y avait un arbre qu'on appelait l'arbre de la vie qui permettait à Adam et Ève d'être renouvelés et de vivre toujours. Et à la fin des temps, dans l'Apocalypse, donc après le millénium, il est dit dans Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et Apocalypse 22, 2, « Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » On retrouve l'arbre de la Genèse dans l'Apocalypse. À la fin des temps, il y aura cet arbre qui servira à la guérison des nations. Mais nous sommes entre ces deux positions. Il y avait le paradis, il y aura à nouveau la guérison des nations lorsque chaque mois il donnera son fruit, mais là, il n'y aura plus de maladie. Mais entre les deux, il y a la maladie qui est la conséquence du péché, d'ailleurs comme la mort. Qu'est-ce que c'est que la maladie? C'est un affaiblissement, d'abord sur le plan physique, puisque nous ne sommes pas immunisés contre toutes les maladies. Il y a toutes sortes de maladies qui peuvent nous atteindre, maladies physiques, bien sûr, à cause de notre corps qui est faible, mais aussi des maladies sur le plan psychique, moral, spirituelles qui peuvent nous atteindre, et on parle de maladies psychologiques, cela existe aussi. Alors, tout cela vient du péché, parce que le péché a fait que nous sommes maintenant fragiles. On le voit autour de nous, il y a la débauche, les excès de table, l'alcoolisme, la drogue, un mal-être intérieur qui agit sur le corps, qui agit aussi parfois sur l'âme, car nous sommes créés corps, âme et esprit. Vous voyez, la plupart des gens s'occupent de leur corps ou de leur être extérieur, mais combien se soucient de leur âme? Il y a quelques années de cela, une chrétienne est passée par une expérience difficile. Elle était rentrée en conflit très violent avec quelqu'un de sa famille, et cela avait développé tellement en elle une haine qu'elle en avait contracté une maladie, un ulcère. Mais ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'elle résistait à demander pardon, à ainsi observer ce que la Bible dit, c'est quand on a quelque chose contre notre frère, eh bien, de lui demander des pardons, de s'entretenir avec, de se réconcilier, de se pardonner. Eh bien, elle s'est entêtée dans son amertume, et cela a tellement affecté sur le plan physique qu'elle en est tombée dans le coma. Et c'est dans le coma que le Seigneur lui a parlé, lui a dit, tu dois demander pardon à ton frère, tu dois te réconcilier avec ton frère. Elle en est arrivée jusqu'à un point où elle était entre la vie et la mort. Et là, elle a reconnu son erreur, elle est sortie du coma, elle s'est réconciliée. En même temps qu'elle a qu'elle s'est réconciliée avec son frère, en fait, toutes les maladies qu'elle avait développées sont parties. Quelquefois, les maladies peuvent être liées à un manque de pardon parce que nous n'avons pas fait ce que la Bible demande, tout simplement. Alors, la parole de Dieu donne quelques conseils importants dans Proverbe 3, verset 7. Comment conserver la santé ? Parce que Dieu nous a donné la vie, nous avons la santé, que Dieu soit béni, mais il y a des conseils dans l'Écriture pour nous éviter déjà de tomber malade. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Et voilà des conseils spirituels qui font que si on les applique, crains l'Éternel, détourne-toi du mal, mets en pratique la parole de Dieu, et nous nous rendons compte que cela déjà génère une certaine force, une certaine santé physique qui nous permet bien d'avancer dans la vie. Et un autre proverbe, proverbe 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. » Là encore, nous nous rendons compte que la parole de Dieu, l'observation des enseignements de Jésus, de ce que la Bible nous dit, eh bien, va produire en nous la santé dans notre corps. Alors tout cela, c'est important de le méditer. Et la Bible nous donne des conseils, par exemple, sur l'équilibre alimentaire, mais aussi sur l'équilibre physique. Parce que, nous l'avons dit, corps, âme, esprit, c'est vrai qu'une grande partie s'adresse à notre âme, notre esprit, mais par exemple, Paul dit à Timothée, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais surtout exerce-toi à la piété. Mais il considère quand même l'exercice physique, et je remarque qu'il ne dit pas l'exercice physique est complètement inutile, ou il ne dit pas ça sert absolument à rien de s'occuper du corps. Il dit quand même que c'est utile à peu de choses, puisque c'est temporaire, on est passager, notre corps retournera à la poussière, mais néanmoins, c'est utile. Moi, je retiens le mot « utile ». Donc, vous voyez ici un équilibre que même chrétiens, bien, nous devons entretenir, même au niveau du physique, par de l'exercice physique. Bien sûr, ça ne va pas être notre préoccupation principale, puisque la piété va être notre recherche essentielle. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. C'est notre priorité. Mais néanmoins, nous savons que bien, ce corps, nous devrons le vivre avec, si je puis dire, jusqu'à notre départ pour la patrie céleste. Et tant que nous sommes dans ce corps, nous devons bien, nous efforcer de l'entretenir. Et la parole est équilibrée. Elle dit, l'exercice physique, c'est utile. Et puis ailleurs, Paul dit, bien, entretenez-vous aussi dans votre âme par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Ça, c'est l'entretien de l'âme et ça, nous devons l'observer. Alors, j'attire votre attention sur les bonnes disciplines au niveau physique. Un jour, un pasteur allemand nous a témoigné ceci. Un fermier est venu le voir, c'était un pasteur de campagne. Un fermier vient voir ce pasteur pour qu'il prie pour lui parce qu'il avait trop de cholestérol. Et le pasteur lui demande, mais comment vous mangez ? Et le fermier lui répond, ben, le matin, je mange une tranche de lard fumé, le midi, des côtes de porc, et le soir, du pâté au canard. Et là, le pasteur lui a dit, mais commencez par changer votre alimentation, parce que ça ne sert à rien de prier si vous faites pas d'effort. Si vous mangez n'importe comment, vous mangez trop gras, vous ne faites pas attention, vous ne faites pas d'exercice, alors évidemment, vous allez avoir des maladies qui vont être liées à votre déséquilibre. Alors, vous voyez, quelquefois, nous, on s'attend à Dieu, on prie pour des choses, mais il y a tout simplement des conseils dans la parole, si nous les observons, nous n'avons pas besoin de prier pour ces sujets-là parce que bien, nous aurons un régime équilibré et ainsi le corps fonctionnera bien. Mais la maladie vient de notre déséquilibre. Nous n'obéissons pas, nous ne faisons qu'à notre tête et souvent nous sommes malades. Et puis après nous prions, Seigneur, viens guéris-moi. Mais le Seigneur nous reprend et nous dit, attention, rectifie ceci ou cela. Ou quelqu'un qui a trop d'activité, qui s'éparpille à gauche, à droite, et puis après qui est épuisé, et qui dit « je ne comprends pas, je suis épuisé, priez pour moi, ça ne va pas ». Mais le Seigneur nous montre qu'il faut réorganiser notre emploi du temps, il faut renoncer à certaines choses, et privilégier les principales, on ne peut pas tout faire. Et ça, c'est la sagesse et le bon sens. La maladie peut provenir aussi d'un jugement divin. Par exemple, un jour, Moïse a pris pour femme une Éthiopienne et Aaron et Marie ont commencé à parler contre Moïse. Et ils ont jugé que cela n'était pas convenable et puis ils ont commencé à dire, mais finalement, Dieu ne parle pas seulement par Moïse, il parle aussi par nous. Mais Dieu entendait tout cela et cela ne lui a pas plu. Dieu a repris sévèrement Marie et Aaron en leur disant, je révèle par des songes, par des prophéties à mes serviteurs, mais Moïse, je lui parle face à face. Il y avait quelque chose de particulier avec Moïse, ils n'ont pas compris. Et il y a eu une sanction sévère qui est tombée sur Marie. Elle a été touchée par la lèpre ce jour même. Et la maladie a été, dans son cas de figure, une sanction divine concernant un comportement inapproprié, et ça a été instantané. Si bien que Moïse a intercédé pour que Marie soit guérie. C'est même celui-là même qu'elle avait critiqué qui va être l'objet de sa propre guérison. Vous voyez comme quoi Dieu est en train de lui enseigner que nous devons faire attention à ce que nous disons et ne pas avoir des paroles en l'air. On a le même exemple avec Géasi, le serviteur d'Élisée, qui, lorsque Naaman a été guéri de sa lèpre, alors ça c'est un miracle qu'on trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, il y a ce général syrien qui vient en Israël, il cherche à obtenir la guérison de sa lèpre, il va d'abord voir le roi dit « je ne peux rien faire », il l'envoie, il va vers le prophète Élisée, Élisée ne sort même pas, et il fait dire par un serviteur « va te plonger cette fois dans l'eau du Jourdain ». Sur cette parole de Dieu, finalement, les serviteurs de Naaman qui voulait partir parce qu'en se disant « il ne vient même pas prier pour moi, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il allait partir dans son pays. Les serviteurs l'engagent à se plonger cette fois. La septième fois, il est complètement guéri. Et Géasi, alors qu'il voit cet homme partir et que Élisée a renoncé à tous les cadeaux, tous les biens que Naaman voulait donner, il a commencé à mentir en disant à Naaman, il y a des prophètes qui sont arrivés chez moi, n'aurais-tu pas un peu d'argent, des vêtements pour eux? C'est un mensonge déjà. Pourtant, c'est un croyant. Alors, Naaman dit, bien sûr, voilà, prends l'argent, les vêtements, il lui donne de bon cœur. Il ne sait pas qu'il ment. Et Géasi va cacher tout ça chez lui, ni vu, ni connu, et puis il se rend vers le prophète. Et le prophète lui pose la question, Élisée, d'où viens-tu? Et puis là, deuxième mensonge, pour se sortir de son forfait, il est obligé de le cacher avec un mensonge et il dit, ben, je suis allé ni d'un côté, ni de l'autre. Il est en train de mentir. Il ne confesse pas son péché, il n'avoue pas la vérité. Et instantanément, le prophète qui a reçu une révélation du Saint-Esprit lui dit, ben, est-ce le moment de prendre de l'argent, de prendre de l'or, de vivre dans l'abondance? Dieu a tout vu. Géasi a menti, Géasi a trompé, et il lui dit cette parole, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Et là encore, c'est un jugement divin sur un croyant qui s'appelle donc Géasi, qui a eu la même lèpre qu'avait Naaman. Maintenant, vous direz peut-être, oui, mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que Dieu pourrait agir comme ça dans la Nouvelle Alliance? Peut-être on peut lire ce texte dans 1 Corinthiens 11, qui nous montre dans la Nouvelle Alliance une sanction liée à un mauvais comportement, ici de croyants, bien sûr, nous sommes dans l'Église. Certains qui prenaient le repas du Seigneur d'une manière indigne, il y avait peut-être de la légèreté dans l'Église. Et Paul, donc, souvent on lit ce passage d'ailleurs pour introduire la Sainte-Cène. Paul va parler du repas du Seigneur. Il faut prendre donc le pain et le vin en mémoire de ce que Jésus a fait. Et puis il rajoute une précision à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et il boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, on a ici un exemple de chrétien qui, par légèreté, eh bien, prenait le repas du Seigneur indignement. Eh bien, ça a généré certaines sanctions. Ils ne se sont pas jugés eux-mêmes, alors le Seigneur les a châtiés, les a punis de cette situation. Je vous donne ces quelques exemples, mais pour vous montrer que cela est une possibilité, que Dieu utilise la maladie comme une sanction. Maintenant, ce n'est pas le cas, on va dire, général. Le cas général, on le trouve la plupart du temps, les maladies qui viennent suite à des difficultés qui ne sont pas liées au péché. Par exemple, Job, il est dit qu'il était un homme intègre et droit, qu'il aimait Dieu, qu'il était fidèle au Seigneur et il se détournait même du mal. Et il a été frappé d'un ulcère malin, c'est-à-dire une maladie de peau, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête qui le faisait souffrir. Elle se grattait toute la journée et ça n'était pas lié à une sanction de Dieu, ça n'était pas lié à un péché, mais il a été éprouvé dans sa santé, en tout cas, par cette maladie. L'aveugle né, dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 9, lorsque les disciples voient un aveugle né, ils disent, mais Seigneur, il parle au Seigneur Jésus, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Donc, vous voyez, dans la mentalité, forcément, c'est qu'il y a un péché pour qu'il y ait une maladie. Mais Jésus dit non, ce n'est pas lui ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, Jésus détache la chose d'un péché qu'il aurait commis, en tout cas. Et puis, des croyants sincères ont été malades. On peut penser à Élisée, qui a été atteint de maladie. La Bible dit qu'il est mort de cette maladie dont il avait été atteint. Et puis Trophime, compagnon de voyage de Paul, qui a été laissé malade à Milet. Donc on trouve que parfois la maladie aussi frappe des croyants et qui n'est pas nécessairement une sanction divine. Alors on trouve un enseignement même sur Internet, et beaucoup écoutent Internet aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de messages. Cet enseignement consiste à dire qu'un chrétien ne doit jamais être malade. Alors, d'abord, moi, ce que je réponds à ceci, c'est que les chrétiens sont des êtres humains comme les autres et nous ne sommes pas formés d'une matière différente, même si nous avons une espérance vivante et si nous avons la foi et gloire à Dieu. Mais néanmoins, nous sommes poussière et comme tous les êtres humains, nous retournerons à la poussière. Ça, c'est le corps, c'est l'enveloppe. Mais ce n'est pas le plus important. Quand on reçoit une enveloppe, ce qui est important, c'est la lettre qui est à l'intérieur, c'est notre âme qui ira dans la présence de Dieu. Donc la maladie, parfois dans nos milieux, est assez incompréhensible parce qu'on se dit, ben, si on est chrétien, on ne devrait jamais être malade. Et puis c'est un enseignement qui circule, beaucoup de chrétiens adhèrent à cela. Je pense qu'il faut un peu d'équilibre, de sagesse, de pondération, sachant que nous sommes des êtres humains comme les autres et que bien, nous pouvons passer par toutes sortes d'épreuves, y compris la maladie. Maintenant, parfois, on se dit, oui, mais s'il est malade, est-ce qu'il y a péché? Parce qu'on a parlé du jugement. Est-ce qu'il n'y a pas un péché? Alors, il faut faire attention parce que la personne souffre déjà, donc physiquement, moralement, de sa maladie. Mais en plus, on peut lui coller une culpabilité en disant, ben, peut-être qu'elle a péché pour qu'elle soit dans cette situation. Et c'est encore plus lourd à supporter pour la personne qui est malade. Ce qui me fait me rendre compte que tout le monde n'est pas toujours approprié pour aider quelqu'un qui est malade, surtout si on a des paroles un petit peu acerbes. Donc soyons compatissants, ne jugeons pas le frère ou la sœur, prions et ayons une approche humble. Je vous cite l'exemple de ministères reconnus qui ont été malades tout en exerçant leur ministère. Bon, ça paraît un petit peu paradoxal, mais des fois le Seigneur le permet ainsi. Je pense à Smith Wigglesworth, qui a été puissamment utilisé par Dieu pour guérir des malades. Alors qu'il a connu le Seigneur, il avait 8 ans. Il travaillait 12 heures par jour à l'époque. Il a juste appris à lire parce qu'il n'allait pas à l'école au bout d'un certain âge. Et il a vraiment appris à lire avec la Bible quand il s'est converti. C'est d'ailleurs le seul livre qu'il ait vraiment jamais lu. Il a travaillé comme plombier et il n'a commencé à servir Dieu qu'à partir de 48 ans, disons, de le servir à plein temps dans un ministère. Et lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher l'Évangile et à prier pour les malades et il y avait des guérisons. Mais lui-même, il se trouvait qu'il souffrait dans son corps de calculs rénaux. Mais des calculs rénaux qui le faisaient drôlement souffrir, au point que parfois même il devait quitter une réunion à cause de la douleur qu'il avait dans son corps. Et lorsqu'il rentrait chez lui, il priait, et parfois pendant des heures, et après un soulagement se produisait. Lui-même, lorsqu'il priait pour les autres, il voyait des guérisons, mais il ne voyait pas de guérison dans sa propre existence. C'est assez perturbant, mais il continuait à exercer son ministère, il n'a jamais cessé de prier pour les malades, et il a constamment vu la grâce de Dieu dans sa vie. Il a eu des épreuves. Sa femme est morte assez prématurément. Sa fille Alice Salter est restée sourde malgré ses prières. Cela aussi, ça a été une épreuve difficile. Et pourtant, il est resté fidèle au Seigneur jusqu'à 88 ans, âge à laquelle il est mort, et il est reparti dans la gloire. Alors pour le taquiner un peu, pour l'embêter, on lui disait « Oui, mais pourquoi est-ce que vous continuez à prier pour les malades, vous priez pour la guérison, alors que votre propre fille, elle est malade ?» Alors lui, il disait ceci, « Ben, dites-moi, pourquoi le prophète Élisée était chauve, et je vous dirai pourquoi ma fille est malade ?» Alors il remettait tout ça à Dieu. La maladie est liée à notre humanité, Paul explique dans 2 Corinthiens 4:16, même si notre homme extérieur se détruit, ça c'est la réalité des chrétiens comme des non-chrétiens, c'est notre homme extérieur, il se détruit, notre homme intérieur se renouvelle chaque jour. Alors la maladie nous humilie, on est en train de voir notre corps se détruire. Mais ça nous rappelle que nous ne sommes que voyageurs et passagers, peut-être ça nous tient dans l'humilité, ça nous tient dans l'attente à Dieu. On se tourne vers Dieu. La maladie nous éprouve dans la foi. Je dirais que la maladie est à double tranchant. Soit elle nous rapproche de Dieu, parce qu'on va s'attendre à lui, soit parfois ça crée une révolte, une incompréhension, et on s'éloigne de Dieu. Il est question dans 2 Corinthiens 12:7 de Paul, qui a reçu une écharde dans la chair. Pourtant, c'était un apôtre, quelqu'un de véritablement engagé avec Dieu. 2 Corinthiens 12:7 « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Beaucoup d'interprétations ont été proposées à ce passage. Généralement, les gens voient ici une maladie qui limitait Paul en reliant à Galates 4:14 « parce qu'il avait une maladie des yeux, semble-t-il. Lorsqu'il écrit « Mise à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. » Et il avait de la difficulté à écrire. Il dit « Voyez avec quelles grosses lettres je vous écris cette épître. » Si on analyse bien le texte, Paul vient de parler, il dit « Je connais un homme qui est monté au ciel. » Il parle de lui-même. Il est allé au paradis. Il dit, je ne sais pas si c'est en son corps ou si c'est en esprit, mais cet homme, dans le paradis, a entendu des choses extraordinaires qu'il n'est pas possible de rapporter sur la terre. Et c'est à cause de l'excellence de ces révélations qu'il lui a été mis dans la chair une écharde pour le maintenir dans l'humilité. Aussi bien, nous comprenons que si Dieu n'avait pas permis cette écharde, Paul aurait pu dévier dans l'orgueil. Et on aurait ainsi perdu un élément essentiel dans l'œuvre de l'Église. Donc Dieu avait une raison, il lui a mis une écharde dans la chair. Cette écharde, il dit, c'est un ange de Satan qui venait le frapper, donc littéralement donner des coups, empêcher Paul de s'enorgueillir. Alors la manière de faire de Dieu nous échappe, vous voyez. Comment comprendre que Dieu permette qu'un ange de Satan, c'est-à-dire un mauvais esprit, vienne gêner un serviteur de Dieu pour empêcher ce serviteur de Dieu de s'enorgueillir. La manière de faire de Dieu est au-delà de notre compréhension, de notre manière de faire, mais en tout cas, ce qui montre que Dieu dirige toutes choses Et même si nous avons une écharde, même si nous avons une difficulté que Dieu a permis, eh bien, en fait, en réalité, il l'a permise dans un sens positif, c'était que Paul ne tombe pas dans l'orgueil. Et c'est vrai pour nous, s'il y a une écharde quelconque, c'est dans un sens. Ce n'était pas pour empêcher Paul de faire le ministère, ce n'était pas pour l'empêcher de continuer à partager tout ce qu'il avait reçu du Saint-Esprit, mais c'était pour le canaliser, en tout cas le cadrer, qu'il ne chute pas dans l'orgueil et le maintenir dans l'humilité. Un deuxième point, c'est la toute-puissance de Dieu. On a parlé de la maladie qui nous montre la faiblesse de l'homme. D'ailleurs, il y a trois mots hébreux pour désigner l'homme. Adam, ça veut dire la poussière. Adam, Adam, la poussière. Ish, être faible, fragile, souffrant. Et Enoch, mortel, méprisable. Ces trois mots désignent l'homme. Soit c'est la poussière, soit c'est un être faible, soit c'est un être mortel. Et tout cela est en contraste avec la toute-puissance de Dieu. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Et c'est vrai qu'on peut aller très loin dans la pensée, frères et sœurs. Nous avons une imagination des fois débordante. On est capable d'imaginer des choses incroyables. Mais la Bible dit qu'il peut faire infiniment encore au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Un jour, un homme est venu voir Jésus pour son fils qui était lunatique, agité par un mauvais esprit. Et les disciples n'ont pas pu le guérir ou le délivrer. C'était un cas assez lourd. L'esprit poussait l'enfant dans le feu ou dans l'eau et le poussait au suicide, à se faire périr, se tailler avec des pierres, etc., depuis son enfance. Alors cet homme se tourne vers Jésus et dit « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui répond, face à ce cas qui semble impossible, il dit « Mais si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Il nous enseigne la foi, de garder confiance en Dieu, même quand la situation est défavorable. C'est ce qui est arrivé à une femme, une mère de famille qui a appris que son fils avait la leucémie. C'est arrivé en Allemagne, un jeune Allemand qui avait une vingtaine d'années. Il y a son témoignage d'ailleurs sur notre site internet, il s'appelle Frank Bredow. Il était diagnostiqué cancer du sang en 1992 et un cancer foudroyant, il en avait pour 3 semaines à vivre encore, selon les médecins. Et effectivement, il a été hospitalisé et 1 mois plus tard, il était sur le point de mourir. Ça s'est passé au mois de février 1992 et la mère était croyante, lui aussi. Ils ont bien sûr demandé à l'église la prière. La maman venait tous les jours à son chevet, prier pour son fils. Et elle avait reçu ce verset de Dieu, c'est « Tu ne mourras pas, tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel ». Elle l'avait reçu de Dieu comme une parole de l'Éternel. Et elle le proclamait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais la réalité, c'est que le corps de ce jeune a dépéri au point qu'à un moment donné, il est parti. Et lui, il raconte qu'il s'est vu, partir son âme. Il a vu sa maman qui priait pour lui, il a vu son âme partir et il a vu la salle où il était et il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. Il dit que là, il était bien parce que dans son corps, il avait toutes les machines, tous les tubes qui étaient sur lui. Cela l'encombrait et le faisait beaucoup souffrir, bien sûr, physiquement. Et puis là, il était comme délivré de toutes ses douleurs. Il était dans la présence de Dieu, il était bien. Et il dit qu'il était heureux au paradis, tout ça. Mais à un moment donné, il y a un ange qui lui dit « Maintenant, tu dois retourner parce qu'il y a ta maman qui prie en bas. » Alors lui, il ne voulait pas retourner en fait dans son corps, il voulait rester au paradis, mais il n'a pas eu le choix, il s'est retrouvé dans son corps, son âme est retournée dans le corps, et ainsi, il a rouvert les yeux, mais dans son corps malade. Ah, ça a été une souffrance encore tout à nouveau, la souffrance qu'il avait quittée est revenue. Mais il explique qu'à partir de ce moment-là, sa peau a commencé à se régénérer, les reins qui ne fonctionnaient plus ont commencé à fonctionner, et rapidement, en quelques jours en fait, il a reproduit du sang bon, et il a été complètement guéri, c'est vraiment l'intervention de Dieu. On ne pouvait plus rien pour lui, il était parti. Mais sa maman, elle n'a pas baissé les bras, elle a vraiment cru, elle a reçu de Dieu. C'est une parole, hein, une parole de Dieu pour ce cas particulier. Ça ne veut pas dire que tous les morts ressuscitent, mais dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé. Et béni soit Dieu pour ce témoignage de, de guérison. Et puis, un dernier point, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu, comment prier pour la guérison divine si nous ne connaissons pas sa volonté. Alors, psaume 103, verset 3, dit ceci, c'est lui, c'est Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Donc toutes les maladies, ça parle des maladies physiques, bien sûr, mais ça parle des maladies de l'âme, ça parle des maladies de l'esprit, c'est global. En réalité, Dieu guérit toutes sortes de maladies. Donc d'une manière... Pardon ? Oui, d'une manière générale, Dieu guérit. Alors après, il est dit au psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. » Là aussi, on a l'image maintenant d'un cœur brisé, quelqu'un qui souffre dans son âme. Peut-être certains ont des blessures de la vie, dans l'enfance, on les a rejetées, méprisées. Ils ont une image d'eux-mêmes déformée, peut-être dévalorisée, ils se sentent misérables, inutiles. Eh bien, Dieu va agir dans leur santé. Peut-être certains ont une vision faussée de Dieu en pensant que Dieu veut les punir ou les frapper parce qu'ils ont fait ceci ou ils ont fait cela et ils s'infligent toutes sortes de souffrances. C'est vrai même dans la religion. Par exemple, Luther, avant de devenir protestant et de s'engager dans la cause de l'Évangile, il était moine et il disait ceci, lorsqu'il était moine, il disait « J'ai martyrisé mon corps par la prière, par les jeûnes, par l'éveil, par le froid ». Je cherchais Dieu avec une règle si sévère, mais je ne l'ai pas trouvé. Et il explique que c'est en lisant l'Épître aux Romains qui dit que le juste vivra par la foi qu'il a réalisé que c'était le chemin qui le menait à Dieu et non pas ses souffrances, non pas cette règle sévère qu'il s'était imposée. La maladie, la souffrance ne nous rendent pas plus saints. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Mais nous ne pouvons pas par nos souffrances gagner le cœur de Dieu. Et enfin, dans 3 Jean 1, 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc Jean écrit qu'il souhaite que ce croyant prospère et qu'il soit aussi en bonne santé. Et on comprend que la volonté générale de Dieu, c'est que l'on soit en bonne santé. Mais néanmoins, on a vu aussi que Dieu peut utiliser la maladie de différents moyens, pour nous enseigner, pour nous éprouver, pour nous humilier. Et la maladie, c'est aussi un des moyens que Dieu utilise pour nous rappeler à lui. Je pense à ce témoignage du pasteur Mampio, qui avait une petite fille de 7 ans, et cette petite fille est tombée gravement malade. Et bien sûr, ils ont prié avec l'Église, et ils ont prié pour que cette fille soit guérie. Mais c'est une maladie très, très lourde, et elle allait vers la mort. Et ce qui est particulier dans ce témoignage, c'est que cette petite fille, elle aimait tellement Jésus, elle avait reçu dans son cœur la conviction qu'elle allait rencontrer le Seigneur Jésus, qu'elle allait partir dans le ciel. Et lorsqu'elle expliquait ça à ses parents, ils ne voulaient pas croire que c'était possible, que c'était envisageable, imaginable pour un enfant. Alors ils ont continué à prier pour sa guérison. Mais effectivement, la fille est partie et elle est allée dans le ciel, elle est allée vers Jésus. Une jeune fille de 7-8 ans. Alors, comment on peut accepter une chose pareille ? Bien, il y a des choses qu'on ne comprendra pas sur cette terre. On sait que Dieu, tout ce qu'il fait est bon et parfait, mais il y a des choses que nous ne comprendrons que là-haut. Simplement, nous devons aussi apprendre à accepter que Dieu agisse de telle ou telle manière, qui nous échappe, nous le reconnaissons humblement. Nous n'avons pas les réponses à toutes les questions, mais néanmoins, ce que nous savons, c'est que Dieu est bon, et ce qu'il fait est parfait, nous lui faisons confiance. Et quand bien même, il nous rappelle, c'est vrai qu'un jour ou l'autre, la Bible dit que le Seigneur nous rappellera à lui, et ça peut être de différents moyens, dont la maladie, qui est un moyen de nous ramener aussi vers le départ. Alors, on va prier quelques instants, je parlerai la semaine prochaine des solutions de Dieu, que Dieu a prévues, mais j'aimerais prier un instant, maintenant que Dieu nous aide à bien comprendre les éléments qui concernent à la fois les problématiques de la maladie et puis comment Dieu peut utiliser aussi la maladie et comment nous pouvons nous attendre à la grâce de Dieu pour la guérison. C'est une grâce, c'est Dieu qui le décide. Nous, il nous est demandé juste de nous attendre à lui et de croire. Après, le plan pour chacun peut être différent. C'est à nous aussi de le discerner. Merci encore pour ta parole. Te prions de nous aider à bien comprendre, Seigneur, tout ce que tu veux nous enseigner et de bien avoir un regard équilibré sur tout ce qui concerne ce sujet de la guérison divine, parce que nous ne voulons pas nous laisser séduire par des excès ou des enseignements faussés, mais comprendre l'équilibre de ta parole. Et Seigneur, nous te prions qu'elle produise du fruit en nous, qu'elle nous permette de mieux te connaître, de mieux t'aimer, de chercher, Seigneur, à nous approcher de toi et à vouloir toujours écouter ta voix. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen.